Radio Bark, notre huitième, donc, avec aujourd'hui Alexandre T, qui est le président des vignerons indépendants audois. Alors, indépendant est un très important, puisque ça veut dire que vous êtes différent d'un autre grand pilier de la viticulture dans notre département, qui est la coopération. Alors Alexandre T, bonjour, rebonjour. Revenons très rapidement sur cette dichotomie qui existe, pas seulement dans notre département, mais enfin qui l'a marqué profondément.
Les vignerons indépendants ont cette spécificité qu'ils sont... au travail sur toute la chaîne de production du vin, c'est-à-dire de la culture à la récolte, en passant par la vinification, le conditionnement et la vente de leurs cuvées.
Oui, un journal, il n'y a pas très longtemps, vous citant, disait, alors vous allez me dire si c'est vrai, il n'y a plus de viticulteurs, il n'y a que des vignerons. C'est ce que vous voulez dire ?
Oui, c'est une appréhension... global du milieu dans lequel vit le vigneron, c'est-à-dire le vigneron vit vraiment dans le monde actuel au contact du consommateur puisqu'il commercialise le produit final. Donc il y a toute une partie de culture au niveau de l'aménagement du territoire et de la création même de son outil qui est la vigne, et derrière toute une partie de transformation du fruit, du raisin, pour en faire du vin avec les assemblages, avec le ressenti, avec l'émotion, avec ce que chacun des vignerons a en lui, une partie d'artisanat, je dirais, dans la création de la cuvée, et puis la partie au contact d'autrui qui est la vente de cette création. Donc sur toute la chaîne, c'est vraiment la spécificité et l'identité des vignerons indépendants. Comme vous l'avez dit, le mot indépendant est aussi à souligner. La Fédération des vignerons indépendants, c'est une vision qui est la mienne. C'est une famille. C'est des gens qui se reconnaissent sur des principes, des valeurs, une philosophie de cette filière de métier, mais chacun en gardant sa spécificité propre. Notre force, c'est aussi l'ensemble de ces vignerons qui se retrouvent sur des idées communes tout en préservant ce qu'ils sont de façon intrinsèque chacun et l'idée qu'ils ont du développement de leur entreprise par le biais de la création de leur vin.
Oui, vous voulez dire qu'il y a une philosophie qui accompagne cette démarche, cette manière d'être.
Oui, cette famille se retrouve sur une philosophie sur des valeurs communes, on va dire, de ce que pour nous et le métier de vigneron aujourd'hui.
Et alors là, il y a eu une très forte transformation dans les 30 ou 40 dernières années, chez nous notamment. Et on a vu, à une époque, par exemple, il y avait des caves coopératives partout, absolument dans chaque commune. Beaucoup ont disparu, ont fusionné. Quelle est la part aujourd'hui de la coopération et la part des vignerons indépendants ?
Alors les chiffres précis, je les aurais pas.
Mais un ordre de grandeur.
Je les aurais pas en tête. En termes de production, les choses tendent à l'équilibre à aujourd'hui. Les groupements sont devenus présents depuis ces 40 dernières années sur notre département. Des fusions de caves aussi ont eu lieu pour des raisons d'efficience économique et de gestion d'échelle. Et les vignerons indépendants continuent, eux, leur travail de développement des marchés, d'installation. Après, on se retrouve avec la coopération sur différents sujets de filière, de gestion de dossiers qu'il nous faut porter de façon commune pour la viticulture de ce département. Des partenariats aussi avec la Chambre d'agriculture. Donc il y a toute une partie de gestion de problématiques et de dossiers que nous gérons de façon concomitante et même au-delà, sur certains dossiers, la main dans la main, pour pouvoir porter une parole pour l'ensemble de la viticulture et de ce territoire qui soit audible par les instances ou les administrations ou l'État même.
En dépit donc du mode d'existence et surtout de la partie commercialisation, contact avec le client, qui fait votre spécificité.
Exactement.
Grosso modo, aujourd'hui, ça serait 50-50 avec peut-être une évolution qui irait dans quel sens?
Ou
une stabilité à terme.
Je pense qu'il y a une stabilité en termes de d'efficience sur la production. Les vignerons indépendants ont grossi au fil des 50 dernières années et aujourd'hui sont par l'intermédiaire des différentes fédérations des départements des interlocuteurs incontournables quand il s'agit de discuter avec les services de l'État ou des départements ou de la région d'aménagement du territoire ou d'économie.
Voilà, mais vous pensez qu'on arrive à un équilibre qui serait pour vous souhaitable? Quelle est votre vision là-dessus?
Alors,
sans prendre vos désirs pour des réalités.
Non,
j'insiste bien.
Souhaitable, la question se pose pas pour moi en termes d'équilibre. La question se pose en termes de performance de la viticulture dans ce département de performance d'entreprise, de performance économique, de performance sociale aussi, puisque la viticulture de ce département représente 80% de la main-d'œuvre agricole. Donc on a besoin d'avoir une viticulture forte dans ce département pour pouvoir avoir des prérogatives, je me répète, d'aménagement du territoire qui soient cohérentes.
Oui. Et alors Alexandre T, on va prendre maintenant, on va entrer dans le détail si je puis dire, et on va commencer par le tout début, c'est-à-dire la partie production, vers ensuite la partie commercialisation.
Bien sûr.
Alors, la partie production, bon, tout le monde sait comment on fait de la vigne, comment on fait du vin, mais il y a un événement extérieur qui est arrivé, c'est le changement climatique, qui apporte des transformations inéluctables.
Il apporte des contraintes supplémentaires, j'ai envie de dire. On s'aperçoit au fil des années que on s'achemine tranquillement, mais pas si doucement que ça, vers des périodes sèches, très chaudes, et des périodes en termes d'hydrométrie de pluie qui sont très abondantes sur des laps de temps très courts. Ça pose des problèmes d'inondation. On a pu malheureusement le constater ces dernières années avec des drames humains, avec des drames aussi
économiques.
Donc ces choses sont à prendre en considération, surtout que on a des étés qui sont de plus en plus chauds et secs, avec des épisodes de canicules remarquables, qui font que un des premiers dossiers que l'ensemble de la filière est en train de traiter, c'est l'eau. L'eau dans les apports, sa gestion et son partage.
Oui. Et irriguer la vigne, il y a quelques années, ça semblait un peu une hérésie.
Alors, si on se replace à l'époque, il y avait des endroits où l'irrigation s'est fait parce que, en termes de praticité, c'était assez facile. On avait un cours d'eau à côté, on avait un puits, on avait donc les choses se sont faites du fait de cette facilité technique et pratique d'utilisation de l'eau. Aujourd'hui, on constate que cette nécessité d'apport en eau contrôlée et raisonnable va devenir obligatoire sur une grande partie du territoire audois. Et on doit pouvoir faire du cas par cas. On doit pouvoir être en mesure d'aller chercher de l'eau, que ça soit par des retenues collinaires, que ça soit par
des barrages, quoi, enfin,
exactement, que ça soit par des forages, que ça soit par du retraitement d'eau usée, pour pouvoir être en capacité de, pour certains territoires, de maintenir la vigne.
Oui,
pour lui permettre de subsister, et pour d'autres parties d'arriver à un niveau qualitatif qui permet d'envisager l'avenir de façon sereine. Donc le but, c'est vraiment d'avoir, selon les zones, des solutions adaptées qui permettent d'envisager l'avenir de façon sereine pour l'ensemble des vignerons.
Oui, et en tenant compte notamment de la diversité dans un département comme l'Aude, de la diversité des terroirs et des reliefs.
Bien sûr, la géologie de l'Aude est différente. On a un territoire qui est assez hétéroclite, du bord de mer aux Hautes Corbières, en passant par les différentes plaines qui la composent. Donc c'est pour ça que je parlais du cas par cas et de solutions adaptées en fonction de chaque partie.
Alors, les retenues d'eau, bon, tout le monde sait ce que c'est, enfin, c'est relativement simple, techniquement, à mettre en place, techniquement.
Faut bien souligner le relativement.
Politiquement, c'est autre chose. Mais, il y a une piste nouvelle qui est apparue, même si elle est exploitée depuis fort longtemps, c'est celle du recyclage des eaux usées. Alors, on a une expérimentation qui se fait à Roquefort des Corbières, station d'épuration, recyclage de l'eau. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Et est-ce que ça vous semble une piste prometteuse?
Alors, une piste prometteuse, oui. Toutes les solutions doivent être étudiées. Sur Roquefort, je crois que c'est à titre expérimental pour le moment. D'autres expérimentations peuvent voir le jour dans les temps qui arrivent. C'est des pistes qui sont intéressantes du fait que on vient pas capter une ressource naturelle à sa base. On est en train de travailler pour voir sur un recyclage de cette eau. Mais pour le moment, ça reste à titre expérimental. Donc il est vrai que dans la composante totale qu'est le dossier de l'eau, c'est une piste à suivre et à continuer de travailler de façon, on va dire, rapide, parce que ces changements de climat se font de plus en plus rapidement. Donc c'est une piste à étudier de façon certaine, mais j'ai envie de dire comme toutes les autres, il faut vraiment pouvoir travailler sur l'ensemble du panel des possibilités que
nous
avons.
Mais sur celle-ci, sur quoi on achoppe? Quelle est la pierre d'achoppement là? Pourquoi on n'avance pas plus vite alors que dans certains pays on l'a fait?
C'est des
contraintes administratives, sanitaires?
Les deux. Il y a des contraintes administratives dues à une réglementation sanitaire aussi, qui font que au niveau du traitement, après on arrive sur des contraintes techniques qui ne permettraient pas d'avoir la totalité des réponses administratives à fournir en termes d'état sanitaire de l'eau à l'issue du retraitement. Et puis il y a des coûts de raccordement, il y a des coûts.
Il y a besoin d'infrastructures
sur un réseau primaire pour amener l'eau. Et à la base, c'est vrai que ça n'avait pas été créé pour ça. Non, le dossier de l'eau est un dossier complexe. Je pense que tout le monde a pleine conscience à aujourd'hui qu'il faut qu'on soit réactif et efficace. Maintenant, de façon rapide, tout le monde est au travail. Beaucoup de dossiers sont en train d'avancer de façon plus rapide que ce qu'ils ont pu l'être.
Mais diverses pistes qui avancent parallèlement.
On ne peut pas s'en satisfaire. Il faut qu'on soit encore plus proactif sur ce dossier.
Alors passons à la suite de votre activité, Alexandre T. de la viticulture, donc la commercialisation essentiellement. D'abord, une petite question. Il y a 20 ou une vingtaine d'années, me semble-t-il, on avait, à notre époque, là maintenant, en novembre, des campagnes de primeurs qui, me semble-t-il, ont relativement disparu. Est-ce que la viticulture audoise, aujourd'hui, a pris ses distances avec la production de primeurs?
Non, pris ses distances, non. Il existe toujours un marché pour les vins primeurs, y compris pour...
En tout cas, il est discret.
Pour les vins audois, il est discret parce que c'est une... une petite partie de la production audoise à aujourd'hui, qui a un débouché qui est très rapide après vendange, et qui travaille essentiellement sur du régional pour les primeurs issus de ce département. Donc c'est quelque chose qui existe avec des développements commerciaux qui doivent être faits dans un temps très court après les vendanges, sur un territoire qui est assez restreint. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, qui existe toujours, qui fait partie
mais
aussi.
Mais qui ne prend pas d'ampleur, en quelque sorte.
Non, ça prend
pas. Par exemple, comme le Beaujolais, avec les coûts médiatiques que ça fait.
Oui, le Beaujolais, c'est on va dire une autre trajectoire.
Oui.
Un autre profil produit avec le lancement de plusieurs cuvées d'une région au niveau planétaire. On est plus au niveau de l'Aude dans la continuité de tradition qui se faisait de vins d'après vendange, voilà. Les premiers vins sortis et des châtaignes.
C'était le vin nouveau plutôt que la grande volonté médiatique de vin primeur planétaire.
Exactement, on n'a jamais été, je pense qu'on ne le sera pas, un département qui aura vocation à ce que son premier marché soit le vin nouveau.
Ouais, voilà,
de façon différente dans une montée en gamme de l'ensemble des vins qui sont produits sur ce département, avec toutes les composantes et la complémentarité des cuvées que l'on peut trouver sur notre zone.
Voilà qui est clair en tout cas. On parle alors de plus en plus, alors un mot anglais très à la mode, de agribashing, c'est-à-dire on tape sur les viticulteurs, sur les agriculteurs, pas seulement viticulteurs en général. Est-ce que vous, Alexandre T., dans l'Aude, là où vous exercez, vous ressentez ce regard un petit peu méfiant de certaines couches de la population ?
Je crois que dans l'Aude, comme sur tout le territoire français, les consommateurs et le citoyen se questionnent sur sa qualité de vie, sur son environnement.
Alors, on ressort l'inéluctable glyphosate.
Le glyphosate, les pesticides, donc sur son cadre de vie. Nous devons, étant aussi des agriculteurs, être en capacité de réponse pédagogique aux questionnements qui nous sont faits. Je crois qu'aujourd'hui, le Languedoc et l'Aude en particulier sont parmi les territoires les plus éco-responsables du monde. J'ai pas peur de le dire.
Et alors, vous, votre cas particulier, justement, Alexandre T., vous êtes passé au bio depuis pas mal d'années.
Oui, depuis 2010. Mais enfin, au-delà de mon cas particulier, aujourd'hui, il y a plusieurs voies, que ça soit les vins en biodynamie, en bio, en HVE, TerraVitis.
HVE, ça veut dire
haute valeur environnementale. Donc il y a plusieurs certifications, il y a plusieurs labels. Je pense que de plus en plus, la viticulture et le monde agricole en général tend vers des pratiques vertueuses et des actions qui font qu'on tend vers des normes agro-environnementales de plus en plus pointues et poussées. Donc le but est aussi d'exprimer et de faire comprendre aux citoyens que dans le cadre d'un travail qui est le nôtre, nous avons un impact sur notre environnement que nous faisons en sorte de maîtriser du mieux qu'il est possible de faire, au-delà de la réglementation actuelle que nous respectons. Donc, partant de ce constat, si on reste aussi dans du rationnel et du factuel, sur les causes, les effets et les implications de chacun, il est important de dire que à aujourd'hui, nous sommes dans un mode de production.
Vous êtes sur une bonne voie.
On est sur une très bonne voie et c'est une voie qui s'accélère, qui s'accentue, qui fait que quelqu'un qui aujourd'hui qui est en culture dite conventionnelle par rapport au pays qui nous entoure et si on doit passer dans l'hémisphère opposé, nous sommes
beaucoup plus vertueux,
beaucoup
en France,
plus vertueux avec un nombre de molécules interdites d'utilisation qui est beaucoup plus important
beaucoup plus
ici.
Beaucoup de contraintes chez nous, quoi, en fait.
Bien sûr. Et la plupart, et si ce n'est la totalité des agriculteurs et des vignerons de ce département, tendent à aller au-delà pour être encore plus en adéquation avec leur environnement. C'est une conscience de la profession, oui. Je crois, qui est générale, avec une réelle volonté d'aller de l'avant.
Voilà, donc, il faut le souligner. Donc,
il faut qu'on le fasse savoir.
Qu'on ne dise pas n'importe quoi. Pour conclure, Alexandre T, un petit mot quand même sur les derniers problèmes, alors politiques, planétaires, à savoir la taxe de Trump, la Chine, le Brexit qui se profile. Un petit mot pour conclure là-dessus.
Oui, en termes de commercialisation, ce dernier point, grosso modo, les vignerons indépendants de France, 60% de leur vente se fait à l'export. Partant de ce constat, pour une région comme la nôtre, les trois marchés que sont la Chine, les États-Unis et la Grande-Bretagne sont dans le top 5. Les contraintes géopolitiques que nous subissons depuis un an et demi maintenant commencent à devenir dramatiques. On voit que sur le marché chinois, l'Australie, l'Argentine, le Chili sont passés en libre-échange sur le vin. Ça leur permet de prendre des parts de marché au vu des prix concurrentiels qu'ils ont sur le marché chinois et de bousculer sérieusement les vins français. La taxe Trump plus 25% sur le marché américain est vraiment très très problématique, parce que les importateurs ne peuvent pas répercuter la totalité de cette taxe au consommateur final et demandent aux producteurs français qu'ils importent de supporter une partie de cette taxe. Et la Grande-Bretagne, le Brexit, on n'a toujours pas vraiment de vision de ce qu'il va devenir à la suite, avec un Brexit dur ou pas, quels sont les accords de branche qui vont être mis en place.
Voilà, il va falloir conclure. Merci en tout cas, Alexandre T. On conclut sur une partie justement transitoire et nous vous retrouverons, j'imagine, prochainement à ce micro pour faire le point sur l'évolution de cette situation. Incertitude donc. Merci en tout cas d'avoir fait le point à ce jour avec nous sur la viticulture, alors audoise, mais plus régionale, beaucoup plus largement. Nos prochains invités reviendront vers du traditionnel politique. Nous recevrons Nicolas Sainte-Cluc, puis ensuite Didier Mouly, l'un et l'autre qui seront en concurrence pour les prochaines élections municipales de Narbonne. Merci en tout cas à vous et de nous avoir suivis, et à la semaine prochaine.
Merci.